Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Allez. C'est à consommer avec modération, mais quel bruit délicieux! Tout comme ce qu'on verse dans les verres, le cidre de Rose Averne fabriqué à Telgruc-sur-Mer. Mais avant d'en arriver à ce bruit délicieux, il y a tout un travail, assuré notamment par Nicolas Mazot, l'un des cidriers de Rose Averne, que nous allons donc suivre.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc ça c'est le bâtiment de la cidrerie à proprement parler, quoi. Donc avec tout ce qu'il faut pour fabriquer du cidre de A à Z, donc de l'entrée ici où on a toutes les machines pour la réception des pommes, le tri, le lavage, le broyage, râpage des fruits, le pressoir. Et ensuite, quand on entre dans la salle après, donc ça c'est ce qu'on appelle la cave. Alors c'est pas enterré, mais voilà, c'est une salle où on a toutes nos cuves, donc un lieu un peu isolé. Où on a toutes nos cuves, une quinzaine de cuves en fibre de verre, comme ça, dans lesquelles fermente le cidre.
C'est la fibre de verre.
Ouais, voilà, ouais. Ça pourrait être de l'inox aussi. Bon, l'inox, c'est bien plus cher, mais c'est de la fibre de verre, donc des cuves sur pied qui font 3,50 m de haut à peu près, et dans lesquelles on met le moût de pomme, donc ce qu'on appelle le moût, c'est le jus de pomme qui sort du pressoir en sortie de presse. Et pour ce qui est du cidre, donc ça va fermenter pendant tout l'hiver ici, entre 3 et 6 mois de fermentation en cuve avant la mise en bouteille.
La cidrerie est toute neuve. Quant à l'exploitation,
la cidrerie de Rose Averne, donc nous, je dis toujours, on est producteur fermier. Donc ça veut dire qu'on est agriculteur de statut. Notre métier, notre casquette numéro une, c'est de produire de la pomme. Donc pour ça, on a des vergers. On a une vingtaine d'hectares de vergers plantés. Ils ne sont pas tous productifs, dans le sens où on a replanté beaucoup ces dernières années. Donc il y a des vergers qui sont en train de pousser, qui vont produire dans 10-15 ans. Et puis on a 5 hectares qui produisent correctement, sur lesquels on s'appuie. On récolte 200 tonnes de pommes à peu près par an sur ces 5 hectares-là. Et on travaille à 3 personnes, parce que nous on a repris avec ma compagne l'exploitation de ma mère en 2015. Et puis il y a 2 ans, on a embauché mon cousin. Donc voilà, on est 3 à plein temps sur la cidrerie. L'été, on est épaulé par 2 personnes, 2 jeunes qui nous aident pour l'accueil et la dégustation. Parce que nous, notre spécificité, c'est de vendre 80% de nos produits ici sur place, en direct. Donc on a besoin de temps et pour accueillir, pour faire déguster, pour parler de nos produits, pour expliquer tout ça. Et c'est pour ça que l'été, comme il y a plus d'affluence, on a besoin d'être 3 ou 4 en permanence à la dégustation. Ouais.
Donc Nicolas l'a dit, il n'est pas tout seul à assurer le travail. Sa compagne, Jennifer Squarneck, n'est pas loin. Ce matin, elle se charge d'une des visites de l'exploitation.
Donc, bonjour, bienvenue. Moi, je m'appelle Jennifer, donc je suis cidrière. C'est un mot que le correcteur orthographique ne connaît pas, mais on dit bien cidrier et cidrière, donc ça veut dire que je suis productrice de cidre. Nicolas, donc mon conjoint et moi, on a repris la cidrerie de ma belle-mère qui a commencé il y a 20 ans. Et on est ici à la cidrerie de Rose Averne. Donc Rose Averne, c'est le nom de la première parcelle qu'elle a plantée.
Alors, pour faire du cidre, comment est-ce qu'on s'y prend ?
Alors nous, l'année, elle commence fin septembre, début octobre. On va commencer comme ça, c'est pas l'année civile, c'est plutôt l'année cidricole. Ramassage des pommes. Et pressage de front. Donc les pommes sont ramassées pendant 2 mois, parce que je parlais de 50 variétés, elles ne sont pas mûres au même moment, ces 50 variétés-là. Ça commence début octobre et ça va mûrir jusqu'à début décembre pour les plus tardives. Donc pendant 2 mois et demi, on va ramasser les fruits. Alors je parle bien de ramassage, hein. On ramasse au sol, hein, en cidre, ça tombe dans l'herbe et on ramasse par terre. Et au fur et à mesure, on va presser. C'est-à-dire qu'on n'engrange pas toutes les pommes pour presser tout à la fin, non, on presse au fur et à mesure. Il faut presser de la pomme qui soit bien mûre, pas en surmaturité. Donc on presse et on ramasse de front pendant 2 mois et demi.
Et l'idée, c'est que quand ça tombe quand les pommes tombent, elles sont pas bonnes quand elles sont dans l'arbre, on va pas les cueillir. Elles vont tomber, elles seront pas encore mûres une fois au sol, elles vont mûrir dans les 2-3 semaines. Et c'est là qu'on va savoir la maturité optimum, c'est quand il y a le maximum de taux de sucre et avant que ça ne pourrisse, c'est là qu'il faut les récolter.
Et ensuite, l'hiver, ça va être les fermentations qui vont se passer dans les grandes cuves qu'on a vues tout à l'heure dans la cave. Ça prend, c'est variable hein, selon les années, les cuvées, tout ça, entre 3 et 6 mois de fermentation en cuve. Donc ça nous amène jusqu'au printemps. En parallèle des fermentations qui se passent en cave, on a la taille des arbres à faire l'hiver. Donc on est et en cave à, à, à s'occuper des cuvées, à soutirer, à filtrer, etc. Et dehors, à tailler les arbres.
Ben non, c'est vide, t'as raison, il n'y a plus rien dans les cuves. Donc là, c'est l'été, tout a été mis en bouteille, mais c'est ici qu'on passe la plupart de notre temps en automne-hiver. Donc le jus, on va le mettre dans des cuves en fibre de verre. Donc c'est des garde-vins, hein, on trouve ça généralement dans les zones viticoles. C'est plutôt intéressant pour nous parce que c'est transparent. Avant, c'était en barrique, sauf qu'en barrique, en fait, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, donc c'était pas mal... au pif, on va dire. Avec une cuve en fibre de verre, c'est plus facile pour nous de choisir le bon moment pour soutirer. Alors la première étape du cidre, qu'on n'aura pas en vin, c'est un peu magique. Ça s'appelle une clarification naturelle, c'est le chapeau brun. Donc tout ce qui est solide, parce que ça sort comme du nectar, hein, c'est complet un jus, hein, c'est vraiment opaque. Tout ce qui est solide, les pectines, s'il y a une impureté, tout ça, ça va remonter à la surface. Ça va faire un peu comme une mousse au chocolat.
Ensuite, au printemps, arrive le moment des mises en bouteille en général. Hein, après les fermentations, on va mettre en bouteille les cidres. Mars, avril sont les deux gros mois de mise en bouteille. Une fois mis en bouteille, ils ne sont pas bons à boire encore. Il faut cette fameuse refermentation en bouteille, cette prise de mousse ou cette prise de pétillant naturel qu'on fait. Ça prend 3 mois supplémentaires. Donc, si on résume, le cidre, il est pressé à l'automne. Il est mis en bouteille au printemps. Il est bon à boire seulement avec l'été suivant. Donc, il nous faut 9 mois pour faire un cidre, hein, finalement. Et au printemps, en parallèle de ça, on a les vergers. Dans les vergers, l'herbe commence à repousser. Nous, on a besoin d'entretenir l'herbe par fauche. Hein, on broie ou on fauche l'herbe de façon à avoir une herbe qui ne soit pas trop haute en septembre. On pense déjà à l'année suivante pour le ramassage des pommes à la saison suivante. Je rajoute à ça quelque chose qui se passe toute l'année, c'est l'accueil. L'accueil, c'est toute l'année. Alors, on est un peu moins ouvert l'hiver parce qu'on a vraiment beaucoup de boulot en production. Et puis à partir de début avril jusqu'à fin septembre, on est ouvert tous les jours, sauf dimanche, pour l'accueil et la dégustation. Donc ça, c'est un travail qui est vraiment toute l'année, quoi.
Votre temporalité, finalement, elle est un peu l'inverse des autres agriculteurs et agricultrices.
Oui, on est très pris l'hiver, ouais, en production. Et après, en général, quand tout est en bouteille, on est content parce qu'on sait qu'on n'aura plus que du quotidien à gérer un petit peu, quoi. Voilà. Mais bon, l'année passe vite.
Et c'est quand même, est-ce que c'est quand même une des rares productions où on peut partir en vacances?
Il faut se forcer à prendre du temps parce que s'il y a toujours quelque chose à faire, hein, dans une ferme en général, c'est pas spécifique au cidre. Hein. Donc ouais, nous on arrive à se dégager un petit moment à la rentrée des classes, donc début septembre. Alors ça va parce que le petit est encore petit, il n'est pas à l'école, donc on arrive à partir quand les autres rentrent à l'école, les 15 premiers jours de septembre en général. Et puis en janvier, on arrive à avoir un petit peu de temps aussi quand tout et en cuve, que les fermentations sont un peu stabilisées. Si on gère bien, on peut se prendre une dizaine de jours à ce moment-là. Ouais.
Sur les vergers, alors, est-ce que vous mettez des traitements? Alors, parce que les pommes, on a un connu, c'est un particulier, ça a tendance à prendre le vert.
Ouais, non, alors le vert de la pomme, on a des mésanges dans les vergers. Donc les mésanges, ce qui est bien, c'est qu'elles mangent le vert de la pomme, le carpocaps, avant qu'il ne monte dans les pommes. Donc on n'a pas trop de problèmes de vert. Et après, s'il y en a quand même, en fait, les pommes verrées, elles vont tomber avant les autres, et du coup le jour de la récolte, elles seront noires, on va pas les ramasser. Elles vont juste rester au sol, ça va refaire du compost. Voilà. Donc nous, c'est juste les mésanges en lutte intégrée. Ouais. Et on est en agriculture biologique, mais sans traitement. En fait, en pomme à cidre, c'est un peu différent de la...
Alors, en bio, nous, on travaille de manière vraiment très, très extensive, c'est-à-dire que donc tout le verger et toute l'exploitation est conduite en bio et sans intrants. Donc, il n'y a pas du tout de produits, de traitements. Même les produits qui pourraient être autorisés en bio, on ne les utilise pas. C'est un choix de notre part. Alors, on ne fait pas des rendements exceptionnels en fonctionnant comme ça. On est un petit peu en dessous, hein, forcément. Mais ça nous permet vraiment d'avoir un produit qui est 100% naturel. On travaille avec des variétés anciennes, très locales, hein, donc cornoyaises pour la plupart, hein, qui sont du sud Finistère. Alors, on en a quelques-unes qui sont un peu plus loin, mais globalement, c'est vraiment des variétés très locales et qui sont assez rustiques. Et heureusement pour nous, ça nous permet de travailler dans ce mode-là de conduite, et donc ça, il y a plus de résistance aux maladies et tout ça. On a nos spécificités ici en presqu'île de Crozon, enfin de Châteaulin à Crozon, hein. On a par exemple une variété qui fait toujours un peu sourire, c'est la Tiponche. C'est une pomme qui pousse que ici, hein. On en parle aux collègues de Quimper, ils la connaissent pas. Et inversement d'ailleurs, eux ils ont des variétés que je connais pas non plus, hein. C'est ce qui fait un peu la richesse des petits terroirs cidricoles là, en Finistère. Et la Tiponche, alors c'est une pomme qui serait originaire de Dinéol et du lieu dit Tiprovost, qui serait transformé en tipronos, tipronce et tiponche. Voilà, ça fait un peu exotique.
C'est amusant.
Ouais, ouais. Et donc, voilà, pour la conduite des pommiers, donc ce qui fait un peu notre spécificité, c'est ça, hein, conduite très extensive. On plante que de la haute tige, donc c'est vraiment le verger traditionnel. On n'a pas des vergers basse tige, nous, un peu intensifs, comme on peut voir ailleurs.
C'est des vrais arbres, enfin, qui ressemblent vraiment à des arbres, là.
Ouais, ça a vraiment la forme d'un pommier, comme on le connaît, ouais. Donc, c'est un tronc qui fait 2 mètres de haut, puis des grandes branches. Les arbres adultes, ils font 5, 6, 7 mètres de haut, hein, selon où ils poussent. Et ensuite, sur la transformation, pour arriver au cidre à partir des pommes, ce qui fait notre spécificité numéro 1, on va dire, c'est qu'on fait tout en pétillant naturel pour le cidre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gazéification sur aucun de nos cidres. Ils vont tous, à l'ancienne, j'ai envie de dire, en méthode ancestrale, traditionnelle, refermenter en bouteille. C'est-à-dire que la fermentation qui se passe principalement dans les cuves, elle va se terminer en bouteille. Et qui dit fermentation dit production d'alcool, mais également dégagement de gaz carbonique. Ben, c'est ce gaz carbonique-là, issu de la fermentation, qui donne les bulles à nos cidres.
Donc, faut pas les garder trop longtemps, ou au contraire, on peut les garder longtemps?
Non, on peut les garder un peu, il y a pas de souci. Moi, je dis toujours que ça se boit jeune, un cidre, un an, deux ans, c'est l'idéal. Ça peut se garder plus sans problème, il n'y a pas de contre-indication. Ça sera peut-être pas meilleur dans cinq ans que ça ne l'était la première année, mais ça se garde, il n'y a pas de souci. Mais un an, deux ans, ouais, vous le buvez jeune, c'est très bien. Ouais.
Et les pommes à cidre, ouais, elles ont leur nom breton, donc c'est des variétés d'ici. Il n'y a pas eu de sélection beaucoup, parce qu'on part du principe que chaque variété va amener quelque chose. En fait, le cidre, c'est souvent un assemblage. C'est rare d'avoir un cidre avec une seule variété. En général, on va mélanger plein de pommes, et chacune va avoir, un peu comme dans une société, chacune aura une particularité, et elle va apporter quelque chose à l'assemblage, au mélange, quoi. Alors c'est quelque chose un peu d'artistique au final, de personnel, parce que chaque personne, avec le même jus, avec les mêmes variétés, on fait pas les mêmes cidres. Parce qu'on a notre façon de faire nos mélanges, et puis on choisit les cidres qu'on a envie de faire aussi, les cidres qu'on a envie de boire. Voilà. Si nous, il nous manquait un cidre par exemple pour aller avec les fruits de mer, avec les poissons, ben on l'a fait, et puis voilà. Donc c'est quand même assez...
Alors sur la question du changement climatique, est-ce que vous constatez déjà des modifications? Comment est-ce que vous pensez vous y adapter, etc.?
Et malheureusement, oui, on constate hein, au quotidien. Hein, nous, on le voit sur l'avancement des périodes de récolte. Hein, concrètement, les anciens ici, je pense que si on va leur demander, c'est pas rare qu'ils faisaient du cidre au mois de janvier. Ils pressaient au mois de janvier, fin décembre. Maintenant, on voit les maturités qui avancent. Donc, fin septembre, des fois, il est temps d'aller ramasser des pommes, alors qu'avant, c'était inconcevable, quoi. Les variétés à cidre, elles sont assez tardives, hein, en général, et on les sélectionne pour ça. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, notre meilleur allié pour la fermentation, pour la fabrication d'un cidre, c'est le froid. Et quand on a des pommes qui sont mûres fin septembre, il fait plus chaud qu'aujourd'hui, là, il fait des fois 25 degrés encore fin septembre. C'est ingérable. On ne peut pas faire fermenter un cidre à 25 degrés, ça irait trop vite, ça serait assez pauvre aromatiquement, donc vraiment pas intéressant et très compliqué techniquement. Et malheureusement, on voit ces maturités qui avancent. Donc des pommes qui étaient mûres mi-octobre, ben maintenant elles sont mûres début octobre. Et ben, il faut les ramasser quand même, parce que sinon on les perd. Hein. Alors nous, on a la chance d'avoir une cidrerie toute flambant neuve, là. On l'a reconstruite il y a 5 ans, avec la cave où on voyait les cuves tout à l'heure, qui est isolée, donc on soutient avec un peu de froid artificiel. Est-ce que c'est bien, pas bien? Dans l'absolu, j'ai envie de dire non, c'est pas bien, on préfère réutiliser le froid naturel, mais bon, ça nous permet de sauver un petit peu le truc quand même. Et après, sur le verger, ben, c'est des phénomènes climatiques qui sont parfois violents. Alors, on n'a pas eu trop de tempêtes là, ces 3-4 dernières années, de violentes, quoi. Mais on n'est pas à l'abri un jour d'un coup de vent ou d'une tempête qui nous mette une partie ou tout le verger par terre. Hein. Ça, c'est un peu l'épée de Damoclès. On ne peut rien contre ça, donc ça ne nous empêche pas de dormir non plus. Enfin, moi, personnellement, parce que sinon, on ne dort jamais. Mais bon, voilà.
Mais celles qui sont sur les pommes, c'est surtout elles qui vont faire le boulot. Donc, il faut absolument qu'elles soient rincées, mais pas lavées au karcher, vous voyez. Et après, on a besoin de cette peau parce que c'est elle qui va lancer le travail. Donc une fois que c'est broyé, on a dans le conquet, là, on a 2,5 tonnes à peu près, c'est la capacité de notre pressoir. On va laisser un petit peu macérer en fait, on va laisser au contact de l'air. Alors souvent les pommes, vous voyez, quand vous croquez dedans, ça s'oxyde très très vite. Hein. Ouais. Donc c'est un fruit fragile. Mmh. Mais là, on cherche à avoir une oxydation parce que ça va extraire la couleur. Un peu comme dans les vins, si vous connaissez. En fait, au lieu d'avoir un cidre jaune, on aura un cidre plus orangé, plus vif. Ça va vraiment sortir de la couleur. Et souvent, comme on a de l'amertume en Finistère, on est sur des cidres plus riches en couleur, plus orangé.
Qu'est-ce qu'il faut pour avoir beaucoup de pommes et des bonnes pommes? C'est quoi les conditions, en gros, idéales?
L'idéal, c'est d'avoir un terrain, c'est toujours un compromis, un terrain qui soit assez poussant, donc il y a un peu de profondeur de terre quand même, que le pommier trouve les nutriments nécessaires à sa pousse, faire un arbre qui soit solide, costaud, et qui trouve un peu la richesse dans le sol. En fait, on est un peu schizophrène en cidre, on a toujours un côté arboriculteur, où on voudrait des arbres super beaux, grands, qui produisent beaucoup. Et puis on a un côté transformateur où on veut de la pomme sucrée, riche aromatiquement. Et les deux ne sont pas forcément compatibles. Un arbre qui va se trouver dans un terrain très poussant, il va faire des super branches, il va être super beau visuellement. Les fruits ne seront peut-être pas à la hauteur. Et parce que l'arbre ne va pas souffrir, donc au fait il va produire. Par contre, un arbre qui est planté sur un terrain un petit peu plus pauvre, avec moins d'épaisseur de terre, tout ça, il va peut-être pas être très joli, pas très grand, mais par contre les fruits, ils vont être super intéressants à transformer parce que très sucré, l'arbre, il va souffrir un peu du stress hydrique, manque d'eau maintenant l'été, ça va donner des fruits qui sont gorgés en sucre, qui aromatiquement sont vraiment au top, et à la limite à choisir, moi je préfère travailler des fruits comme ça. Ouais.
Ah oui, donc si les sécheresses se multiplient en Finistère, ça sera pas forcément un problème pour vous en fait?
Jusqu'à une certaine limite quand même. non, il faut quand même un peu d'eau. Et notamment au mois de juin, là, fin juin, début juillet, où là vraiment c'est la période de la nouaison, donc c'est là que les pommes commencent à prendre leur forme et qu'elles s'accrochent ou pas. Si on n'a pas d'eau maintenant, là, juin a été assez arrosé là, donc c'est pas trop mal. C'était sec avant, mais on a eu un peu d'eau. Là, le pommier au fait... sans lui prêter une intelligence, mais il va se débarrasser, s'il sent qu'il y a une sécheresse qui arrive, il va se débarrasser d'un certain nombre de fruits, on appelle ça la chute physiologique, c'est en ce moment, pour pas s'épuiser au fait. Il sait, voilà, s'il dit « oh là là, il n'y a pas d'eau, si je garde tous mes fruits, je pourrais pas survivre hein, », en gros. Donc il va s'en débarrasser d'une partie, alors que s'il y a un peu d'eau au mois de juin, là, comme on a eu, eh ben, il va dire « bon, bah, c'est bon, j'ai assez de réserve, ok, je mène mes fruits à bien ».
Et ça sent aussi les levures. Alors en fait, on a les tuyaux qui passent sous le bâtiment. On a une fosse qui collecte l'eau, les effluents de la ciderie à la sortie.
Alors le cidre, c'est vraiment le produit phare, on va dire. Hein. On a 5 cuvées différentes. Donc les cuvées, elles se différencient par leur goût différent, hein, leur saveur. Et ça, c'est les variétés de pommes qui amènent ça. Donc nous, on travaille avec une cinquantaine de variétés de pommes différentes. Donc selon comment on les assemble, comme on dit, comment on les mélange, finalement, on va pas faire ressortir les mêmes saveurs. Donc saveur, je parle d'amertume, d'acidité, d'astringence un peu dans une moindre mesure. Et donc les saveurs vont être définies par le mélange, l'assemblage qu'on va faire. Et ensuite, le taux de sucre, ce qui va rester, donc est-ce que c'est un brut, est-ce que c'est un extra brut, est-ce que c'est un demi-sec, ça c'est le temps de fermentation, en très résumé, qui va donner ça. Fermentation très longue, on sera plutôt sur un extra brut, il restera très peu de sucre. Fermentation un petit peu moins longue, on sera sur un brut. Et puis un petit peu plus court, on sera sur un demi-sec. Donc voilà pour la diversité des cuvées de cidre. Et ensuite, on fait du jus de pomme, bien sûr, avec des variétés spécifiques. Là, on ne va pas utiliser de la pomme à cidre qu'on connaît, qui est amère en goût. On va utiliser de la pomme à couteau, nous, donc de la pomme de table. Et ensuite, pour compléter la gamme de produits, on fait aussi du pommeau de Bretagne, sous AOC, lambic de Bretagne, donc l'eau de vie, du vinaigre de cidre. Et un dernier produit, le confit de cidre, qui est une gelée à base de cidre.
Vous avez la consécration, là, vous l'avez obtenue, l'AOP Cornouailles. Combien de temps déjà vous avez travaillé pour obtenir cette AOP?
Alors c'est le résultat d'un long travail, puisque c'est ma mère qui a commencé les démarches avant nous, dans les années 2000. Donc voilà, c'est 20 ans de boulot, en gros, administrativement parlant. C'est long parce que l'AOP, on dit AOC ou AOP, maintenant le site de Cornouailles c'est AOP, ça veut dire que c'est européen. D'où le long boulot administratif parce que ça se joue au niveau de l'Europe. En très résumé, pour rentrer dans une AOP comme ça, il faut que les communes soient classées en zone d'appellation. Donc ça, c'est la première chose. Alors il y a 40 communes sur le Finistère, sur la frange sud, hein, le littoral sud, et avec un petit micro-terroir ici, Vallée de l'Aulne, Presqu'île de Crozon. Donc Crozon et Telgruc, qui sont les deux communes sur lesquelles on a nos vergers, hein, ont été classées en zone. Ensuite, une fois que ça s'est fait, on continue l'entonnoir, c'est le verger. Donc les vergers, certaines parcelles sont classées, d'autres non. Pour des critères voilà, qui sont définis dans le cahier des charges. L'AOP, c'est la qualité supérieure, donc on va chercher les meilleures parcelles. Nous, on a à peu près 2/3 de nos parcelles qui sont classées en AOP Cornouailles maintenant. Ensuite, sur ces parcelles-là, il faut que ce soit des variétés plantées qui soient reconnues par le cahier des charges. Donc le cahier des charges donne une liste de variétés. Alors là-dessus, pas de problème non plus pour nous, parce que ce sont des variétés, on avait anticipé tout ça, donc on travaille uniquement avec ces variétés-là, de toute façon déjà d'avance, et même pour les autres cuvées qui ne sont pas sous AOP.
Il y en a combien et puis quelques noms peut-être?
Alors il y en a une soixantaine en tout. Des emblématiques cornouaillaises, on a la Kermérien, qui est une variété amère. On a la douce moine, qui est une variété plutôt douce amère, très sucrée, originaire plutôt de Quimperlé, mais très répandue dans toute la zone cidricole. On a la tiponche, dont je parlais tout à l'heure, qui est dans le cahier des charges de l'AOP Cornouailles, en tant que pomme emblématique du coin ici. On va avoir la Krohunki, peau de chien en français. Et ensuite, sur la méthode d'obtention d'un cidre AOP Cornouailles, c'est le point le plus important, c'est le pétillant naturel. Donc on ne peut pas gazéifier un cidre sous AOP. Donc il doit être fait en refermentation en bouteille. Donc nous, c'est le cas pour toutes nos cuvées de toute façon. Donc là-dessus, on savait faire et on a toujours fait comme ça. Donc pas de souci. Ce qui a été long, c'était de classer les communes, les vergers. Ça a pris un certain temps.
Moi, j'ai des amis qui savaient que j'allais venir dans la région, fortement conseillé de venir vous voir.
Ok.
Donc voilà,
merci.
Ça peut vous faire un peu de
chouette. Mais en fait, souvent, nous, on vend surtout aux particuliers.
Je suis le papa de Nicolas, qui est le responsable de l'établissement. Et nous sommes aujourd'hui en train de préparer les marchés à la ferme qui vont démarrer lundi prochain. C'est la quatrième année cette année, donc il y a un marché de producteurs de 17h à 20h et puis avec plus d'une trentaine même de producteurs locaux qui viennent présenter leurs produits et vendre. Et puis il y a un groupe musical qui intervient à partir de 20h.
Les animations se passent surtout l'été, alors ça tombe bien parce que c'est là où il y a le plus de demandes aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde. Des visites guidées, donc 4 par semaine en ce moment, hein, les mardis et jeudis, à 11h et à 18h. Hors saison estivale, on organise, je reprends dans l'ordre chronologique, à l'automne, on organise la fête du cidre tous les ans, donc c'est le dernier week-end d'octobre en général, où là on fait une journée de pressage en public, donc c'est notre journée de boulot, et puis on invite tout le monde à venir voir comment on travaille, on répond aux questions, tout ça. Ensuite, dans l'hiver, ponctuellement, on fait quelques animations quand on peut. Alors, en vrac, un peu, on a organisé la nuit de la chouette en partenariat avec la LPO. Donc là, c'est une petite animation sur les rapaces nocturnes, hein, comme son nom l'indique, où on part à la découverte des chouettes et des espèces qui vivent sur le territoire. On aime bien mettre en valeur un petit peu le territoire autour, enfin, nos parcelles, le milieu.
Vous, d'ailleurs, aviez un projet de sentier d'interprétation de l'exploitation. Ça en est où?
Alors, c'est toujours en projet, au stade de projet, mais ce qu'on aimerait faire, ouais, c'est ça, c'est un sentier permanent, un peu d'interprétation des milieux, parce qu'on est sur la vallée de la Berre, hein, la rivière de la Berre, qui se jette à la plage du même nom, à 4 km d'ici, et du coup on a des milieux qui sont vraiment riches. Si on part de la rivière, du fond de vallée, on a la rivière, voilà, où on peut trouver des prairies en zone humide, tout ça, qui abritent des fleurs, des plantes, des animaux spécifiques. Ensuite, en montant un petit peu sur le coteau, bah là, c'est plus notre domaine, où on a les vergers qui sont dans les terrains vraiment en pente, bien exposés au soleil, tout ça, avec la terre qui est plus propice à la culture du pommier. Et puis, quand on arrive un petit peu sur ce que nous, on appelle la montagne, bon, 100 mètres d'altitude hein, quand même. On a des terres plus séchantes qui vont être, où on a aussi un petit peu de pommiers, mais qui vont être des terrains un petit peu plus de landes à l'origine, hein, donc un petit peu plus pauvres. Et tout ça, ça abrite différentes espèces végétales ou animales. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est arriver à mettre en place un sentier où on explique un petit peu cette diversité-là. Alors ça part de la géologie, ça parle après du côté nature, les plantes, les animaux, et puis aussi du côté patrimonial. Donc comment l'homme a façonné aussi le paysage, le bocage, les talus, le dolmen de Penarun qui est à 2 km d'ici, puis les fermes, quoi, là, comment sont construites les fermes, les villages, comment se sont créés tout ça. Donc c'est très riche et bon, on aimerait bien le faire découvrir en mettant aussi des points d'intérêt sur ce petit sentier qui ferait peut-être 2-3 km, hein, un petit truc familial. Pourquoi pas maintenant avec les moyens modernes, des points audio aussi, hein, à écouter avec quelqu'un qui raconte l'histoire de la fontaine par exemple qui est là. Enfin, c'est un projet qui nous tient à cœur. Bon, par manque de temps, ça traîne un peu, mais bon, on le fera, c'est sûr. Ouais.
Par rapport au cidre industriel, c'est quelque chose. Hein.
Non, il est très bon. Ouais. Est-ce que ça vous dit trinquer pour narguer nos auditeurs et auditrices? Allez, à la vôtre.
Ce reportage a été réalisé avec l'aide de Rémi Garraud. La cidrerie de Rosaverne est à Telgruc-sur-Mer, au lieu dit le Launay. Elle dispose d'un site internet, rosaverne.fr. Mais également d'une page Facebook, d'un compte Twitter, Instagram et d'une chaîne YouTube.